Du samedi 12 avril au jeudi 17 avril 2003, Moshi Gilsman, Point Moshi, ascension du Kilimandjaro. Il est plus facile de se confronter à une montagne qu'à une administration. Et c'est le portefeuille bien allégé que nous prenons finalement la route en direction du volcan. Cette fois, c'est parti. Nous venons de passer sous la porte du parc national du Kilimandjaro, Caribou. Bienvenue. Tout est là pour accueillir les montagnards, nombreux en haute saison. Un vaste espace permet aux expéditions de finir les derniers préparatifs avant l'ascension. Aujourd'hui, nous sommes la seule expédition à prendre le départ. Wilson et son équipe d'assistants guides et de porteurs s'affairent pour se répartir le matériel, les vivres de course et les vêtements. Il paraît que ces équipements de haute montagne sont indispensables à partir du troisième camp de base. On a du mal à s'en rendre compte. Il fait encore près de 30 degrés et l'humidité ambiante donne plus envie d'ôter son t-shirt que de mettre des gants. Les présentations sont faites, une équipe jeune, très jeune même, à l'exception de Wilson, qui pourrait être le père de chacun de nous. Les porteurs m'impressionnent. Ils nous accompagnent jusqu'à Kibo Hut, le dernier camp de base situé à 4700 mètres. Ils nous accompagneront dans l'ascension, portant des sacs de près de 40 kilos. C'est la première fois que je fais porter mes affaires par d'autres hommes. À ce sujet, Wilson nous disait lors de nos discussions à Moshi « Ne surestimez pas vos forces. Vous ne pourrez pas porter tout ce dont vous avez besoin par vos propres moyens. Faites confiance à mon équipe, ils sont entraînés et ils vivent de ces expéditions. » Je partagerai bien la charge de certains porteurs, mais Wilson a sans doute raison. D'une part, je n'ai pas leur résistance. D'autre part, ils pourraient le prendre comme un reproche, une manière de leur montrer qu'ils ne font pas bien leur métier. C'est en tout cas la pensée à laquelle j'aboutis, peut-être simplement pour trouver une justification à une situation qui me paraît absurde. Mon rôle est de guider Ali ou ses fous, de les accompagner dans cette ascension en prenant garde à ce qu'ils ne s'épuisent pas plus que nécessaire et qu'ils prennent du plaisir à gravir le volcan. La marche sur des sentiers accidentés leur demande une très grande attention. Comme Azedine, dans le Haut Atlas, Désiré et Théo sur les pentes du Mont Cameroun, ils doivent se faire une image de la surface sur laquelle ils vont poser leurs pieds. Cette image, ils la construiront à travers différentes sources d'informations. Leurs propres sensations lors de leurs précédents pas, les indications transmises par leurs bâtons de marche qui sondent le terrain, les indications que Diego ou moi leur donnons. Alors qu'un simple coup d'œil nous permet d'analyser le sol et de prendre appui pour garder l'équilibre et nous projeter en avant, Ali et ses fous, eux, doivent faire appel à tous leurs sens pour arriver au même résultat. Entre Marangu Gate, 1850 mètres, et Mandara Hut, 2720 mètres, nous marchons dans une forêt luxuriante. Les branches sous lesquelles nous passons se tordent et s'entrelacent à la recherche de lumière. Les troncs sont entourés de lianes. Ce doit être un véritable paradis pour les singes. Wilson nous explique que l'itinéraire que nous empruntons, surnommé Coca-Cola Road, étant très fréquenté, il a été déserté par les animaux sauvages qui peuplent la région. Singes, phacochères, buffles se sont réfugiés dans les montagnes alentours, comme le mont Meru. En cours de route, nous nous faisons rattraper par nos porteurs. Ils portent sur la tête les bouteilles de gaz ou de grands sacs en jute contenant leurs affaires et les nôtres, la vaisselle et les provisions destinées à nourrir 12 personnes pendant 6 jours. À notre tour, nous arrivons au premier campement. Mandara Hut n'est pas un simple refuge. C'est en réalité presque un village, composé d'une vingtaine de petits chalets en bois, avec le chalet d'accueil, la cuisine, des toilettes, un grand chalet, pour que tout le monde puisse se retrouver pour les repas ou écrire le journal de bord, des robinets d'eau. Nos sacs nous attendent devant la porte de notre refuge. Un goûter est déjà servi. Thé, café, lait et pain. Afin de nous acclimater à l'altitude, nous poursuivons notre ascension jusqu'à un cratère voisin, puis redescendons à Mandara Hut. Le deuxième jour, nous rejoignons Orombo Hut, 3700 mètres. Le paysage se modifie. La forêt laisse la place à une végétation plus rase. Un brouillard épais tombe soudainement. Avec lui, le froid et l'humidité changent d'atmosphère. Nous rentrons dans un monde à part. Nous quittons nos habitudes de plaine, les passants dans la rue, les champs cultivés, pour découvrir un monde nouveau. Le silence, les changements climatiques rapides, l'air pur, l'impression d'être seul au monde, une grande solidarité entre les rares personnes qui sont là. Plus nous montons, plus le décalage entre ces deux mondes se fait sentir. Les cabanes d'Orombo Hut nous rassurent. Une présence humaine dans cet environnement hostile, nous réfugiant dans l'une d'elles, nous nous réchauffons dans nos sacs de couchage à l'aide de thé brûlant. Quelquefois, il suffit de faire ou de prendre quelque chose dont on a l'habitude pour se sentir chez soi. Pour un Tanzanien, ce tranquillisant n'est autre que du thé et des gâteaux. Le moral revient avec la chaleur. Hakuna Matata, tout va bien se passer. Troisième jour d'ascension, nous atteignons maintenant des altitudes élevées et devons penser à l'acclimatation. Marcher doucement, faire de petites foulées, expirer profondément. Le mal des montagnes peut survenir à tout moment. Le chemin est plus pentu que les jours précédents. De nombreuses pierres rendent la progression difficile. Après 2 heures de marche, nous finissons par sortir des nuages. Le soleil vient nous réchauffer. Le paysage change de nouveau. La végétation rase laisse la place à un environnement exclusivement minéral. Cet espace ressemble à un désert. Il n'y a aucune trace humaine, pas de végétation. Encore moins de cours d'eau, seulement des rochers et du sable. Le vent forcit encore. En arrivant à Kibo Hut, 4700 mètres, Ali et Diego sont pris de violents maux de tête. Ce dernier camp de base est plus spartiate que le confortable village d'Orombo Hut. Ici, on ne fait que s'arrêter un court moment pour reprendre des forces et partir dans la nuit à l'ascension du sommet. Wilson nous propose de lever le camp à 2 heures pour tenter d'atteindre le cratère au lever du soleil vers 7 heures. Les quelques heures de repos qui précèdent le départ sont interminables. Aucun d'entre nous ne parvient à trouver un sommeil réparateur. Nous dormons d'un œil, d'un sommeil agité, tiraillé entre le besoin de reposer les corps avant l'assaut final et la volonté de se remettre en mouvement pour se réchauffer, ne plus entendre notre pouls battre violemment nos tempes. Le réveil nous libère. Nous avalons quelques biscuits trempés dans du thé. L'appétit n'est pas au rendez-vous, mais il nous faut manger, au moins un peu. Nous en aurons bien besoin. C'est en équipe réduite que nous sortons dans le froid. Wilson et 2 assistants guides nous accompagnent. Armés de lampes frontales, nous nous élançons sur l'ultime pente du volcan. Les céphalées d'Ali semblent avoir disparu. Ce n'est malheureusement pas le cas de celles de Diego. Visiblement, l'effet de l'altitude l'affecte plus que nous autres. Il est pris de vomissements réguliers. J'ai confiance dans l'expérience de Wilson, qui ne considère pas la situation dangereuse au point de nous faire redescendre. J'ai confiance en Diego et dans sa connaissance de ses limites. Il s'arrête quand il en a besoin. Il poursuit l'ascension quand il se sent mieux. Ali écrira au retour dans son journal de bord. J'ai eu peur que mon guide, pris du mal des montagnes, ne puisse plus continuer. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a répondu. Hakuna Matata, ça passera une fois que mon organisme se sera habitué à l'altitude. On peut continuer à marcher comme cela, on a un bon rythme. Le soleil se lève alors que nous sommes encore dans le pierrier qui mène au cratère. Une lumière rasante, couleur or. Une lumière qui transforme la pierre la plus commune en bijoux d'une valeur inestimable. Une lumière qui redonne de l'éclat à nos visages bouffis par l'effet de l'altitude. Difficile de décrire à Ali et ses fous cette luminosité si particulière. Ils ressentent pourtant cette atmosphère magique. La température remonte vite. Les biscuits que nous trempons dans notre thé passent mieux que ceux de Kibo Hut. Pendant cette courte pause, Ali s'est assis. Il rechigne à se relever. En un instant, il perd toute motivation. Wilson l'encourage. Ses fous s'emportent, estimant que nous allons trop loin. Alors qu'Ali est sur le point d'abandonner, nous croisons 2 Kenyans et leur guide qui redescendent. Ils viennent de quitter Gilman's Point. En voyant Ali, ils lui disent « Dans 10 minutes maximum, tu y seras. Tu ne peux pas abandonner maintenant, tu y es presque. C'est vraiment le dernier effort à fournir, courage. » Mais Ali n'a plus de force. Cette fois, tout le monde est derrière lui pour l'y aider. C'est fou y compris. Un dernier pas et nous atteignons Gilman's Point, situé au bord du cratère, à 5681 mètres d'altitude. Ong Jera, félicitations en Swahili. Ali et ses fous, nous y sommes arrivés. En contrebas, on peut voir le refuge Kibo, minuscule et aussi le Kenya. En face de nous s'étend un glacier, la seule neige éternelle d'Afrique. Gilman's Point est situé en réalité à 200 mètres au-dessous du Uru Peak, le sommet qui fait office de point culminant de toute l'Afrique. Une heure de marche en suivant une ligne de crête relativement facile nous en sépare. Ali ne peut aller plus haut. Wilson nous propose de faire redescendre un de ses assistants avec Ali pendant que nous rejoindrons Uru Peak. Diego et moi nous y opposons, estimant que notre objectif est un objectif de groupe. Nous avons atteint Gilman's Point grâce à nos quatre volontés. Nous ne pouvons laisser l'un des nôtres redescendre pendant que nous atteindrons à trois le sommet du cratère. Cet avis n'est pas celui de ces fous qui nous expliquent la rage au cœur. Je n'ai qu'un objectif, atteindre Uhuru. Mon rêve est sur le point d'échouer, si près du but et je ne vais pas atteindre Uhuru. Ce périple n'aura été qu'un échec. Ces larmes que vous voyez couler sur mes joues sont des larmes d'énervement et de tristesse. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Quelques jours plus tard, il nous dictera pour le journal de bord. Je commence à prendre conscience de ce que j'ai fait. Nous sommes en train de conclure un voyage mené de manière intense. Rouler à tandem de Dar es Salaam à Segera, l'ascension du mont Kilimandjaro, atteindre Gilman's Point, je peux être fier de ce que j'ai fait. Je suis un non-voyant tanzanien et je suis allé là où peu de personnes dans ce monde sont passées. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas au refuge de Kibo. Moi, j'ai atteint l'un des sommets du Kilimandjaro. Non, je peux en être fier. Et de rajouter un conseil. J'aimerais terminer en prévenant toute personne qui veut tenter l'ascension du Kilimandjaro. Il faut savoir que ce n'est pas facile, qu'il faudra se dépasser et surtout faire preuve de volonté, comme à tout moment dans la vie. Hakuna Matata, c'est fou, on en prend bonne note.